France Musique.
Une très belle journée à vous, Karine Lebaye, et on vous retrouve dimanche prochain, bien sûr.
France Musique.
Et nous mettons le cap vers Salzbourg cet après-midi dans l'air des lieux. C'est une première émission dans les coulisses de la Mozartwoche, le festival d'hiver de la ville natale de Mozart. Cette année, sur la scène du Manège des Rochers, musiciens, chanteurs et chevaux ont créé l'événement. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 17h.
Oh, what an elegant room!
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
Alors c'est vrai que l'ambiance à Salzbourg l'hiver au mois de janvier, Marc Minkowski, elle est un peu différente de celle de l'été. Hein.
Il y a une lumière magnifique, je suis très sensible à ça, et vous voyez le clocher de l'église Saint-Pierre qui s'approche de nous là, il est illuminé avec un soleil qui scintille littéralement. Là aussi il y a un clocher à côté, enfin, de tout... et puis la neige qu'on voit sur les montagnes alentour, c'est un côté féerique je trouve. L'air des lieux à la Mozartwoche de Salzbourg
avec Bartabas et Marc Minkowski
sur France Musique jusqu'à 17h.
Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, mon père chéri, que je ne suis que par amour pour vous à Salzbourg, car par Dieu, et si cela ne dépendait que de moi, je me serais essuyé le derrière avec le dernier décret de l'archevêque avant de partir. Sur mon honneur, ce n'est pas Salzbourg, mais la fière noblesse qui me pèse chaque jour davantage. Voici donc quelques mots qu'un certain Wolfgang Amadé Mozart, car il faut bien dire Amadé, adressait à son père Léopold, c'était en 1780, Le compositeur rompait avec sa ville natale et surtout avec ceux qu'il administrait à l'époque, à commencer par son prince archevêque Colloredo. « Je le hais jusqu'à la frénésie », écrira plus tard le jeune homme. Depuis 1956, la fondation Mozarteum de Salzbourg organise chaque année, autour de la date anniversaire de la naissance de Mozart, toute une semaine consacrée au compositeur, c'est la Mozartwoche. On est loin de l'effervescence du grand festival d'été, l'hiver est plus propice sans doute à l'intimité, mais on y partage en revanche les hauts lieux de musique de la ville, et par exemple le légendaire Manège des Rochers et ses 96 arcades creusées à même la roche de la montagne. Elles ont vu défiler depuis le milieu des années 1920 les plus grands chefs et les plus grands interprètes mozartiens. Et tenez, un souvenir pour ouvrir cette émission. On est en 1951, Wilhelm Furtwängler dirige une représentation de la flûte enchantée, les musiciens du Philharmonique de Vienne sont dans la fosse, et sur le plateau, Irmgard Seyfried, Josef Grindel et Anton Dermota.
Liebe, du wirst mit so ruhig sein.
Marc Minkowski, on ouvre ce nouveau numéro de L'Air des Lieux avec vous sur France Musique. On est ensemble jusqu'à 17h. Nous sommes à Salzbourg. Je vais vous laisser le soin, tout simplement, de nous dire dans quel lieu nous nous rencontrons.
Alors, on se trouve dans un lieu mythique, à beaucoup de points de vue. Il faut déjà bien signaler à nos auditeurs que le Festival de Salzbourg, c'est plusieurs festivals et c'est plusieurs lieux. Le festival qui est la Mecque de l'opéra, c'est le festival d'été, plein de productions, tout le mois d'août, de juillet, etc. Nous, nous sommes la Mozartwoche, la semaine Mozart, le petit cousin de ce festival.
Vous êtes le directeur artistique.
J'en suis le directeur artistique avec Matthias Schultz, qui est l'intendant de la Stiftung Mozarteum, qui produit ce festival. Il y a aussi le festival de Pâques, qui accueille en général de grands orchestres allemands. C'était le Philharmonique de Berlin pendant des années, avec Karajan, avec Abbado, avec Rattle. Maintenant, c'est Thielemann qui est là, avec Dresde. Il y a le festival de Pentecôte, qui est un peu organisé par le festival d'été, avec Cecilia Bartoli, qui est directrice artistique. Et puis, il y a même encore des petites choses. Enfin, ça, ce sont les axes principaux. Alors, les lieux que nous avons à notre disposition. C'est effectivement notre maison mère, le Mozarteum, avec ses deux salles. Et puis, nous sommes aussi locataires de ces grands espaces qui sont ceux du festival d'été et que nous utilisons pour les événements majeurs de la semaine Mozart. Le Großes Festspielhaus, pour les grands événements symphoniques, une espèce de mini-opéra Bastille à flanc de montagne, le Gadget de Karajan, salle sublime, la House für Mozart, qui est un théâtre à l'italienne moderne, dans lequel nous avons déjà produit notre Lucio Silla il y a 2 ans et Orphée de Gluck l'année dernière. Et notre lieu inattendu, finalement, parce que c'est un lieu d'été, c'est un lieu qui est pas en plein air, mais qui l'a été et qui a été recouvert et dans lequel on a posé un chauffage assez récemment seulement. C'est cette Felsenreitschule, manège des rochers. Donc, si on regarde, il suffit d'aller sur Internet, de faire Felsenreitschule image, et on peut trouver des gravures du XVIIIe siècle où on voit ce que c'était, c'est-à-dire un immense manège.
Vous avez votre plaquette, hein, tout simplement, sous les yeux, donc on voit le lieu à l'époque.
Un immense manège avec des arcades creusées à même la roche. La moitié de la ville de Salzbourg est creusée d'ailleurs dans la roche. Des restaurants, un parking qui est quasiment un musée. Et dans ces arcades, vraisemblablement, devaient se tenir des archevêques, des personnalités importantes, du public, je ne sais exactement. Et le reste du public était peut-être de l'autre côté et il y avait un immense espace équestre. Ce lieu est mythique à plusieurs points de vue parce que quand Max Reinhardt a fondé le Salzburger Festspiel au XXe siècle, eh bien tout est arrivé ici à la manière de Gabriel du Surget et la cour de l'archevêché. C'est-à-dire qu'on a pris un lieu à Aix-en-Provence, oui. On a pris un lieu de plein air, festif. Est-ce qu'il y avait encore un manège à cette époque-là? Je ne sais plus. On a mis des tréteaux et on a fait des pièces de théâtre, des opéras. Et progressivement, On a commencé à aménager ça en creusant une fosse d'orchestre, en faisant un gradin un petit peu plus stable. Et puis, on a commencé à recouvrir en mettant un toit au-dessus de l'auditorium et au-dessus de la scène. Ça, ça a dû se faire assez tardivement. En fait, il y a eu un toit en plastique. Maintenant, c'est un toit ouvrant qu'on peut ouvrir en été. Là, en hiver, ça serait peut-être un peu risqué. Et même le chauffage voilà, est installé seulement depuis 2 ans. Et c'est la première fois qu'il est utilisé au mois de janvier, je crois, depuis l'histoire des festivals de Salzbourg. Mythique parce que non seulement le festival d'été est né ici, mais toutes ces pierres vibrent des plus grands maestros du XXe siècle. La cour qui se trouve juste derrière s'appelle Toscanini Hof parce que le grand maestro était ici dès les premières heures du festival, mais Furtwängler aussi, le jeune Karajan, Böhm, Walter, tous et tous les plus grands chanteurs naturellement de ces années-là ont fait leur début salzbourgeois ici, parce que les deux autres salles couvertes se sont construites quand même beaucoup plus tard. Ouais.
Marc Minkowski, édition 2015 de cette semaine Mozart. Là, vous réunissiez plusieurs choses, c'est-à-dire l'histoire de ce lieu, on revient aux origines, et puis vos passions à vous, au fond,
oui.
Qui sont la musique et les chevaux.
Oui.
Vous nous expliquez un peu l'origine, oui. Au fond, les prémices de ce projet avec Bartabas.
Oui. Bah, c'est l'envie de travailler ensemble, Bartabas et moi. Ça fait 10 ans qu'on se tourne autour, comme ça. On a envisagé la petite messe Rossini, et puis plusieurs autres choses, et puis de travailler à Versailles. Et puis voilà, il n'y avait pas la circonstance, il n'y avait pas le lieu non plus. Et ici, voilà, dès que je suis arrivé là, je me suis dit, il faut faire quelque chose, ça y est, c'est le moment. Je ne pensais même pas forcément à la Felsen Reitschule, puis c'est en commençant à réfléchir un peu plus, je me suis dit, mais c'est évident, c'est un manège, c'est le plus bel espace. Et là, voilà, ça a été 1 an et demi de pourparlers, d'épreuves, on va dire, parce que investir ce lieu qui est un ancien manège, mais qui n'est plus un manège et qui est un théâtre, pour y ramener des chevaux, qui sont pourtant les héros de ce lieu, lors de sa construction, c'est toute une histoire. Pourquoi ? Parce que la sécurité dans les pays autrichiens et germaniques est pleine de réglementations extrêmement sévères pour la protection du public. Donc,
ça veut dire qu'il faut adapter le lieu ?
Il faut adapter le lieu pour que simplement, voilà, il y ait une séparation de principe entre la scène et le public. Mmh. Et merveilleusement, on a réussi à force de discussion et d'amadouer le département de sécurité pour avoir quelque chose qui soit très discret. Vous voyez, vous rentrez dans la salle, il y a un petit filin là, mais on est quand même directement avec la scène. Et si on est un peu plus en hauteur, on est complètement même dans la scène. On est passé par des étapes beaucoup plus compliqué que ça, avec des murs en plexiglas, avec des protections, etc. Deuxième problème pour Bartabas et pour son équipe, c'est la profondeur. Un spectacle équestre a besoin non seulement de largeur, alors là on en a beaucoup, beaucoup. Encore plus parce qu'au départ j'avais prévu de mettre l'orchestre sur le plateau et au bout d'un moment je me suis dit non, essayons de leur laisser tout ce plateau pour qu'ils puissent être tranquilles. Ça n'est pas trop finalement. Et la profondeur, il n'y a plus de profondeur parce qu'on n'est plus dans un ménage, dans un théâtre. Donc on est allé jusqu'à l'avant de la fosse d'orchestre avec quelques centimètres en moins pour toujours ces problèmes de sécurité. Ce qui fait que ça a été pour eux un gros travail pour régler tous ces mouvements chorégraphiques, ces mouvements de carrousel où ils sont quelquefois 12 cavaliers sur scène et autant de chevaux, voyez, pour trouver les bons espaces. Mais ça, on y est arrivé. Puis après, il y a le placement des musiciens, puisque nous avons recouvert la fosse d'orchestre. Il m'a paru évident que ces fameuses arcades dont on a parlé tout à l'heure, qui servaient à accueillir le public de prestige il y a 3 siècles, étaient un lieu à exploiter. Alors ça a été très peu exploité avant cette production. De temps en temps, on mettait un effet spécial, un chœur, un chanteur qu'on va entendre de loin. Mais l'année dernière, pendant qu'on répétait Orfeo, je me suis dit, tiens, j'ai demandé au chœur de venir faire un essai. Et on a joué 2 mouvements, la messe en ut, qui est donc la même musique que le David et Penitente au 3/4. Et premier choc, ces pierres ont renvoyé magnifiquement le son du chœur partout dans la salle. J'étais tellement content que j'ai fait venir l'orchestre pour refaire la même chose. Pareil, merveilleux choix acoustique. Par contre, ce n'est pas facile parce qu'on ne s'entend pas très bien là-dedans.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Alors, je me suis dit, on y va. Et là, alors que je vous parle, on est vraiment dans la réalisation, le combat un petit peu avec l'acoustique, c'est-à-dire qu'on a un petit support électronique pour pouvoir s'entendre, pour que les musiciens puissent non seulement me voir. Et moi, je suis en plus donc de l'autre côté de la scène.
Vous serez où ?
Je suis là-bas, sur ce podium.
D'accord.
Vous voyez, donc les chevaux sont un peu en sandwich entre moi et les musiciens, ce qui ne me déplaît pas. Et voilà, les musiciens ne me voient pas trop mal. Enfin bon, ceux qui sont à l'extérieur sont quand même un peu loin de moi. Bon, on a des petits relais télévision pour ceux qui ne me voient pas bien. Et on a ces relais de son pour arriver à faire toute notre mise en place. C'est beaucoup plus facile dans les pièces lentes. Heureusement, il y en a pas mal dans des pièces méditatives dans ce programme. Et voilà, on est en train de dompter tout ça. Et puis ce soir, on se jette vraiment dans le bain, où on se met tous ensemble. Hier, on a fait connaissance. Les chevaux ont travaillé avec une bande enregistrée, moi-même, pendant quelques jours. L'orchestre un petit peu ici hier soir, encore aujourd'hui. Et ce soir, pof, on se retrouve tous sur ce plateau et on prie pour que ça marche.
Vous évoquez cette relation intime entre les chevaux, la musique, mais votre passion à vous des chevaux, elle est née par ce biais-là ou complètement autrement ?
Non, c'est comme beaucoup de mes confrères, consoeurs du théâtre, de la musique. J'ai eu un grand moment équestre dans ma jeunesse où j'ai cru que j'allais faire ma vie là-dedans. Entre 10 et 20 ans à peu près. Et puis la musique finalement a tout avalé. Et puis l'enseignement de l'art équestre à cette époque, de l'équitation on va dire pour parler simplement, était un enseignement très âpre, peu stimulant, basé sur une espèce de compétition et de houspillage permanent. Et ça m'a un petit peu découragé, je dois dire. Mais par contre, voilà, la musique est venue là. Vous savez, des loisirs comme le ski, etc., voilà, sont des choses qui sont parties de ma vie. Puis il y a des moments où on se dit, tiens, mais quand même, même quand j'ai commencé à diriger, j'étais bassoniste, j'ai joué pendant de nombreuses années avec mes deux casquettes. Et puis j'ai arrêté de jouer du basson. Et puis voilà, un jour ça m'a démangé. Maintenant j'arrive à faire un concert par an sur des œuvres faciles. Et puis j'avais envie de remonter à cheval, c'était évident depuis longtemps. En voyant le spectacle de Bartabas, je sortais toujours avec un mélange d'admiration et de désespoir après ce que j'avais vu en me disant je n'y arriverai jamais. Ce que je viens de voir est tellement extraordinaire. Et puis j'ai rencontré la personne qui m'a remis le pied à l'étrier, si j'ose dire, c'est Manu Bigarnet, un acrobate équestre remarquable qui a travaillé à Zingaro pendant 20 ans et qui est mon voisin à l'île de Ré et qui a une passion qu'il m'a transmise pratiquement automatiquement pour les chevaux lourds, les chevaux de trait. On s'imagine que ces créatures qui avoisinent quelquefois 900 kilos, une tonne, sont des races un peu en voie d'extinction parce que l'agriculture moderne ne se fait plus avec eux, mais ce sont des chevaux extraordinaires qui ont une histoire dans l'histoire de l'humanité. Ils ont toujours été très près de l'homme et ils ont été aussi les chevaux de guerre. Et encore plus, ce dont je suis vraiment passionné sont les chevaux anglais, les heavy horses, les gentle giants. Ce sont des races jumelles qui s'appellent Shire et Clydesdale. Eh bien, ces chevaux sont, de par leur puissance et leur agilité, des merveilleux athlètes pour des cavaliers un peu costauds comme moi. Il faut quand même un cheval qui va pouvoir me porter sans que j'ai l'anxiété de lui casser son dos, parce que je n'ai pas du tout la même morphologie que lors de mes 15 ans, et je n'ai pas étudié ma morphologie pour rester un cavalier pendant toutes ces années, bien sûr. Et puis ces chevaux sont quelquefois aussi, ils ont une grâce incroyable quand on veut les mettre dans des spectacles. On n'obtient pas d'eux naturellement la perfection, la chorégraphie, l'esprit de corps de ballet peut-être qu'on a avec les merveilleux chevaux lusitaniens ou argentins de l'Académie de Versailles, mais il y a d'autres choses. C'est aussi des chevaux qui peuvent vous donner un plaisir fou pour les sorties en extérieur. C'est ce que je fais énormément depuis un an. Je me retrouve tout seul pendant des heures à l'île de Ré ou près de Manchester, en Cambria, où j'ai acheté des chevaux. Je me retrouve sur la plage et là, il y a la communion entre la nature, l'animal et vous, et on a l'impression d'être dans un acte d'histoire de l'humanité totalement naturel.
France Musique, c'est l'air des lieux. Nous sommes cet après-midi à Salzbourg et c'est un extrait à l'instant de la cantate Davide Penitente de Mozart dans une version enregistrée il y a une dizaine d'années, ici même à Salzbourg avec l'orchestre du Mozarteum et Ivor Bolton et, vous l'entendez, l'excellent chœur Bach de Salzbourg, chœur qui participait également ces jours-ci au spectacle imaginé par Marc Minkowski et Bartabas. Profite d'une petite pause ici au Manège des Rochers à Salzbourg pour se parler avec Marianne Crevassa, avec Stanislas de Barbera, que ce sont, j'allais dire, deux des trois solistes de ce Davide Penitente de Mozart. En vérité, pas tout à fait, parce que des solistes, il y en a aussi qui sont pas tout à fait comme vous, chanteurs, mais des solistes parmi les chevaux de l'Académie équestre de Bartabas. J'imagine que c'est la première expérience de ce type pour vous deux, Marianne.
Ah oui, tout à fait, oui, effectivement, c'est la première expérience de ce type, et puis...
Parlez-moi des sensations un peu que vous aviez pendant les répétitions, des sensations de la salle, du rapport aux chevaux, de l'acoustique aussi.
Bon, d'abord, là où on se situe, c'est déjà assez particulier, parce que ce sont dans les arcades, au deuxième étage, bien au centre, et on est vraiment enfermé dans une galerie taillée dans la roche. Donc déjà, ça, il y a un caractère déjà assez exceptionnel. Et puis aussi, par rapport à l'orchestre qui est tout autour de nous et pas dans les différentes arcades aussi et sur différents étages. Donc il y a eu tout un travail de retour, etc. et de mise en place, tout simplement.
Il a été long, d'ailleurs, ce travail de mise en place, de trouver le bon équilibre acoustique, si tant est que le jeu soit fini, hein, parce qu'on est encore dans les répétitions de ce spectacle.
Ça a pris une petite journée quand même hier. On a mis toute l'après-midi, on va dire, à régler les différentes les différentes couleurs, surtout parce que selon les airs, duo, trio, l'équilibre que l'on doit recevoir à l'oreille pour nous chanteurs est différent étant donné le placement des musiciens. Moi, pendant mon air, j'ai beaucoup besoin des contrebasses, de la flûte que j'ai en plein dans l'oreille, dont j'ai pas besoin de retour pour ça. Donc voilà, il faut toujours trouver un équilibre avec ce que l'on a besoin. Mais ils sont très très à l'écoute ici et ils ont fait un travail super et ont été très 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 efficaces.
Marianne. Ça, c'est vrai. Chaque demande a été exaucée. Non, vraiment, ils ont fait un travail extrêmement rapide. Et puis, il a fallu aussi que les chevaux s'acclimatent à nous. Et ça a été aussi le challenge, c'est qu'il faut toute une préparation dont on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire qu'il faut prendre un temps. Là, je crois que c'était à peu près 20-25 minutes pour qu'ils s'habituent à nous, aux musiciens, au son live et direct. Donc, ils ont marché pendant un moment. Et puis, il a fallu attendre un petit peu.
Alors, l'autre question que je ne peux pas poser à deux jeunes chanteurs français qui chantent Mozart dans le sein des singes, j'allais dire, c'est-à-dire à Salzbourg. Bon, en plus, dans les conditions d'un spectacle extraordinaire dans tous les sens du terme, mais tout de même, c'est la façon dont vous vivez ici, ce temps du travail, des répétitions, au Manège des Rochers, qui est une salle mythique parmi les salles de Salzbourg et des festivals, j'allais dire, de Salzbourg, et puis la vie dans la ville, au sens plus large ici.
Bien, moi, c'est la première fois que je mets les pieds à Salzbourg. C'est ma première expérience musicale et de touriste aussi.
Ah, tout court, dans votre vie.
Oui, oui. Premier Salzbourg.
Alors,
ça fait beaucoup de choses à voir et à gérer, mais non, c'est super, je suis très heureux. Je suis très heureux de commencer, professionnellement, ici à Salzbourg, avec un spectacle pareil, parce que c'est une expérience unique, donc ça permet de rentrer dans le festival, de rentrer dans l'ambiance de Salzbourg, d'appréhender tout ça, tout ce que ça représente pour un jeune chanteur dans de très bonnes conditions parce qu'il y a tellement de choses qui se placent avec tellement de sérénité, etc., que je pense que c'est idéal.
C'est Salzbourg l'hiver en plus, c'est plutôt bien, c'est-à-dire que c'est pas l'effervescence extraordinaire de l'été. C'est bien pour prendre ses marques une première fois, je pense. Marianne Crébassa.
Moi, ça fait 3 ans que je viens régulièrement et j'en suis très très heureuse et vraiment l'hiver et l'été. Et c'est vrai que la première fois que je suis arrivée, c'était dans des conditions incroyables. Les festivals d'été avec Placido Domingo, j'ai connu cette effervescence-là. Et puis l'été dernier, ici même, dans la Felsenreithschule pour l'opéra de Marc-André d'Albavi. Moi, je me sens comme à la maison ici parce qu'il y a un côté un peu... C'est une petite ville, mais on est tous très proches. Et puis ici, c'est un lieu de culture, vraiment. Et tous les gens sont ici pour la culture, pour l'art, pour la musique. C'est vrai qu'après l'hiver, c'est un peu plus rude parfois selon les périodes parce que, comme je disais, c'est une petite ville. Mais il y a toujours un concert à voir. Puis il y a tout un folklore aussi en Autriche qui fait que la ville vit vraiment. Vraiment, et les gens sortent et viennent au spectacle.
France Musique.
Thank you.
Bartabas, on se rencontre, on est dans la dernière ligne droite de ces répétitions du David Penitente dirigé par Marc Minkowski et que vous mettez en scène et avec l'Académie équestre de Versailles. On est ici dans la salle au manège des Rochers de Salzbourg. On peut commencer par le lieu peut-être qui impose, j'imagine,
Même à l'origine, voilà, du projet, parce qu'avec Marc,
c'était un défi aussi.
Voilà, on avait un peu envie de travailler ensemble depuis longtemps et c'est lui qui m'a présenté ce lieu-là et bon, pour moi ça a été une évidence. D'abord, c'est toujours émouvant parce que c'est quand même la première fois que des chevaux reviennent dans ce lieu depuis pratiquement 200 ans ou 300 ans, je crois. Mais là, on a l'habitude parce qu'on a, bien réinauguré, quand on a ouvert l'Académie de Versailles il y a 10 ans, c'est la première fois que des chevaux revenaient à Versailles depuis Napoléon. Alors, enfin voilà, c'est assez émouvant, d'autant plus qu'on est vraiment au cœur de... Enfin, ce théâtre a été construit contre la paroi, cette paroi incroyable dans la pierre, et donc qui était un lieu de démonstration de chevaux, en fait. Donc on peut non seulement l'imaginer, mais même c'est certain que Mozart était là où maintenant sont les musiciens, dans la pierre, dans les gradins, en train de regarder les chevaux. Ça l'a peut-être un peu inspiré, quoi.
Alors quand même, le lieu depuis Mozart, il a pas mal changé. Quand vous avez découvert ce théâtre, parce que c'est aujourd'hui une scène fermée, couverte, ça a été quand même une évidence ou quand même vous vous êtes dit ça va être un sacré défi de présenter ici ce spectacle, hein, Martin?
C'est-à-dire que le spectacle a été écrit pour le lieu, en fin de compte, quoi. Parce que ce qui paraît paradoxal, c'est que c'est un théâtre qui a une ouverture immense, puisqu'il y a plus de 25 mètres d'ouverture, mais en fait très peu de profondeur. Donc, enfin, très peu de profondeur pour être utilisé par des chevaux, on va dire, parce que donc le pari a tout de suite été de dire bon bah déjà je suis obligé d'utiliser la fosse d'orchestre, de la combler, quoi, pour agrandir le plateau, ce qui faisait déjà un plateau très en long, quoi. Et donc c'est posé le problème de où mettre l'orchestre. Et donc c'est là qu'est venue l'idée, qui est une grande première ici, de mettre tout l'orchestre, les chœurs et les solistes dans le mur, quoi. C'est-à-dire c'est un mur de musique, quoi. Et moi j'aime beaucoup cette idée, en plus l'acoustique est assez fantastique, c'est-à-dire ça a été quand même on a d'abord testé, enfin Marc a testé avec quelques chœurs d'abord, et donc c'était encore un challenge de plus, quoi. J'aime bien, en plus ce lieu est quand même mythique, bon, il a été à l'origine de ce festival, quoi, du grand festival même d'été, et c'est assez beau d'être encore capable maintenant de dire tiens, on va montrer quelque chose qui n'a jamais été fait, évidemment parce qu'il y a des chevaux, ça c'est une évidence, mais aussi au niveau musical, quoi. C'est-à-dire de pouvoir placer tout l'orchestre, les chœurs et les solistes dans le mur, quoi.
J'ai envie d'entrer un peu dans le secret, mais du travail d'un spectacle comme celui-ci, les prémices de la collaboration aussi avec un chef, avec ensuite des chanteurs, des musiciens, mais ça se passe comment? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous imaginez d'abord dans votre tête lorsque vous savez que ce sera donc d'abord une œuvre, une partition, le David Penitente de Mozart? Quelles images, quel spectacle, quel projet vous nourrissez, vous imaginez?
Bah, c'est très ça, moi je pars toujours de la musique, hein, que ce soit pour Zingaro d'ailleurs ou pour des projets comme ça. C'est-à-dire, moi c'est toujours c'est la musique, j'allais dire l'inspiration première, plus que le texte et plus que le rapport psychologique. Alors déjà, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette œuvre, c'est que c'est une œuvre sacrée. Moi, j'aime beaucoup travailler sur les œuvres sacrées en général, parce que, un, j'aime bien la notion du sacré dans la religion, de la représentation, de la théâtralisation du sacré, moi, me passionne, parce que pour moi, c'est le théâtre premier. C'est-à-dire que j'ai fait des spectacles avec des moines tibétains, du monastère de Guto. Là, en ce moment, je suis en train de tourner un spectacle qui s'appelle Golgotha, qui est sur des œuvres de Luis Victoria. Moi, je trouve que c'est à travers les œuvres sacrées que les compositeurs font les choses qui sont le plus intemporelles. C'est-à-dire on peut moins marquer l'époque, parce que justement, ils sont en train de toucher un thème qui, évidemment, traverse les siècles, et donc une préoccupation, on va dire, des humains qui traversent les siècles. Et donc, en ce sens-là, ils se déconnectent des modes de leur époque. Pour moi, l'oratorio, c'était l'idéal. C'est-à-dire que ce que va exécuter le corps de ballet équestre, c'est un peu la réflexion de ce que renvoie la musique, plus que de chanter à cheval dans un rapport psychologique d'acteur-chanteur, voilà, qui pour moi me paraît très difficile à traiter, hein. C'est pour ça que même à Zingaro, je n'ai jamais mis de texte intelligible dans mes spectacles. C'est qu'il y a bien une raison.
Ça veut dire que vous imaginez une partition chorégraphique avec vos chevaux quasiment comme vous le feriez avec des humains, avec des danseurs.
Non seulement ça, mais même je pars de la structure musicale, quoi. C'est-à-dire, moi, je ne pars pas du contenu du texte. Là, par exemple, dans David et Paysanne, ce ne sont qu'une suite de prières, en fait, d'incantations. Donc ça, je peux m'en dégager complètement. Et moi, je parle de la structure musicale. Mais je fais ça tout le temps, hein. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai fait le Sacre du Printemps avec Boulez, c'était vraiment, je suis parti de la structure musicale de l'œuvre. Je ne suis pas parti de ce qu'elle évoque, de ce qui est raconté. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est la présence du contrepoint. Voilà, ce qui est chez Mozart très rare, quoi. Et donc j'ai tout axé mes chorégraphies de chœur là-dessus, c'est-à-dire des mouvements répétitifs qui se répètent, mais avec un petit changement, une évolution, etc. C'était ma manière à moi d'illustrer un peu cette œuvre. Et puis après, j'ai essayé de... Bon, ça c'est assez évident quand on lit la chorégraphie, c'est que bon, il y a trois solistes, donc ils sont interprétés par trois solistes cavaliers, deux femmes, un homme. Et le chœur, on va dire, est interprété par un groupe de chevaux, de 8 chevaux gris, qui sont un peu la même couleur que le sol et la pierre, quoi. Pour moi, c'était aussi assez important de traiter cette scénographie de manière assez très simple et assez brute, organique presque. J'ai voulu mettre un sable qui était la même couleur que la pierre du mur, et les chevaux eux-mêmes ont la même robe que la pierre du mur, quoi. Voilà, donc c'est une petite...
Et ce qui était très beau aussi, alors c'était tous les prémices justement de la répétition tout à l'heure, c'est-à-dire de voir les chevaux entrer sur scène, prendre possession du plateau, mais aussi de voir apprivoiser les musiciens, les sons de la musique. On a vu que c'était relativement facile pour certains. Il y en a un ou deux pour lesquels ça a été un tout petit peu plus complexe. Ah oui, alors on fait comment dans ces cas-là?
C'est ma seule peur, hein, parce que le spectacle, ça fait quand même 3 mois qu'on travaille en amont avec l'académie, donc il y a un vrai travail de fond. Donc on arrive à peu près réglé, on va dire, il fallait juste s'ajuster au lieu. Mais effectivement, ce qu'on n'a jamais pu faire, c'est le confronter à la réalité des musiciens. Parce qu'on a beau mettre une sono très fort en répétition, ça n'a rien à voir avec la présence physique du souffle, de l'instrument qui produit une énergie. C'est la première fois. Donc, il y a les chevaux hypersensibles, surtout les solistes. C'est les chevaux, enfin, notamment un qui est très fin, qui est très sensible. Bon, là, il a été un peu surpris. Demain, ce soir, ça ira mieux, je pense. Et voilà. Mais ça, c'est vrai que ça fait partie du challenge, quoi. Mais bon, j'avais eu avec Zingaro ce même genre de challenge quand j'avais fait Triptyque, qui était le Sacre du Printemps et la Symphonie des Psaumes. Donc on avait joué pendant un an dans le monde entier avec une bande, avec la Boulez et le Cleveland Orchestra. Et puis on l'a fait une fois, enfin une série à Paris, avec l'Orchestre de Paris et Boulez qui dirigeait. Et là, toutes les répétitions, ce n'était que faire marcher les chevaux au pas devant tout l'orchestre. Parce que là, pareil, l'orchestre était dans les gradins, donc il était à vue et contre la piste. Jusqu'à temps que les chevaux soient vraiment complètement calmes en entendant la musique. Et là, c'était quand même 120 musiciens plus 120 chœurs. Et puis, bon, le Sacre du Printemps, ça pulse quand même. Donc, voilà. Et là, effectivement, le vrai pari qu'il y avait ici, c'est qu'il n'y a pas de coulisses, quoi. Parce que, bon, le plateau est grand, d'accord, mais pas très grand pour des chevaux. Et puis, une fois qu'on a rentré les chevaux sur le plateau, on doit refermer pour faire rentrer. Donc, on ne peut pas...
Faut expliquer, on est à la radio, comment ils entrent, justement, à Jardin. C'est-à-dire, ils sont où, là, concrètement?
Ils rentrent par l'extérieur, donc ils arrivent sur la place dehors. Ils passent une espèce de grotte pour rentrer dans la salle. On a fait une espèce de petite montée à Jardin. Les chevaux montent sur le plateau. Ensuite, on referme la porte, parce que ça donne directement dehors les courants d'air. Et puis ensuite, voilà, en équipe, on fait rentrer le public. Donc, quand le public rentre, les chevaux sont sur le plateau déjà, et il n'y a pas d'endroit où on peut les cacher, quoi. Il n'y a pas de coulisses, quoi. Donc il a fallu dès le début incorporer ça. Donc j'ai fait toute une construction où l'orchestre lui-même fait du petit travail musical, un peu comme s'il s'accordait, ou voilà, il répétait un petit peu comme ça, très doucement, pendant que les chevaux marchent juste au pas tenus par des marcheurs, comme ça, des gens qui les marchent. Et puis à un moment, ça se fait un peu naturellement. Quand on arrive à la demi-salle, paf, les cavaliers arrivent, et tout ça dans la pénombre, montent sur leurs chevaux, ça se calme, et puis tac, ça démarre, quoi. Et ça démarre d'ailleurs par une pièce qui est complètement en ombre chinoise. Ce ne sont que des silhouettes qui trottent et qui galopent dans le noir comme ça. Il sert aussi d'échauffement pour les chevaux. Donc j'ai incorporé un peu la mise en scène aux nécessités des chevaux, quoi.
Et l'autre grand travail, justement, parce que vous citez ces ombres chinoises au début du spectacle, c'est le travail sur les lumières.
Voilà, évidemment, comme toujours, c'est pour moi les lumières, c'est très très important. C'est ce qui permet de faire vivre le lieu, faire vivre la pierre, de la visiter de manière différente, et puis surtout d'illustrer ce rapport quand même, ce mur de musiciens, c'est quand même impressionnant. Il y a 100 musiciens sur 15 mètres de haut, quoi, sur 3 rangées d'arcades, quoi. Donc ils sont en même temps très présents, presque à vous bouffer, quoi, et en même temps qu'ils sont qu'il faut arriver à temps en temps faire disparaître dans la pierre, j'allais dire, quoi, presque.
Ils sont où, vos chevaux, Bartabas, pendant que ils ne répètent pas comme ce soir?
S'ils ne sont pas sur place, ils sont dans un centre hippique qui est à peu près une heure d'ici, quoi. Donc ils sont en même temps bien là-bas, parce que c'est plus calme, plus tranquille pour même les sortir le matin, parce que le matin ils ont un petit footing de travail. Mais bon, c'est à chaque fois 3 quarts d'heure de camion pour venir, les débarquer, les monter, il y a presque une heure, quoi. Et pareil pour rentrer le soir, quoi. Donc c'est quand même beaucoup de travail, surtout pour les cavalières de l'académie, puisqu'un des principes de l'académie, c'est que les écuyères artistes s'occupent aussi de leurs chevaux, quoi. Donc c'est pas juste ils descendent et hop, ils vont au cocktail. Il faut qu'ils rentrent leurs chevaux, qu'ils s'en occupent le soir. Parce que c'est quand même c'est leur partenaire. Et comme je dis toujours, vous avez choisi de travailler avec moi, donc d'en chier un petit peu, mais les chevaux, on a choisi pour eux. Donc on leur doit d'autant plus d'amour, d'attention et de respect qu'ils n'ont pas choisi d'être là.
Merci beaucoup. Une dernière question. Vous connaissiez Salzbourg, Bartabas, ou c'est votre première fois ici?
J'étais venu une fois pour visiter le lieu, c'est tout, quoi. Non, je suis assez impressionné. Moi, j'aime bien me balader très tôt le matin en vélo. Je me balade. Donc moi, les villes, je les visite très très tôt le matin. J'adore ça. C'est-à-dire que quand il n'y a pas trop d'activité, c'est là que tu vois... Enfin, moi, je trouve que c'est là que tu vois mieux respirer une ville, quand justement, il n'y a pas trop de gens dans les rues. Et je suis assez impressionné, parce qu'il y a... Il y a un mélange de... Bon, tu sens évidemment le poids de l'histoire, quoi, hein, je veux dire, ça c'est clair. Et en même temps, il y a un côté assez... comme la nature est assez forte autour, c'est, il y a en même temps un côté très... il est très religieux dans le sens où on sent bien qu'on est dans la ville de Mozart maintenant, encore presque. Et en même temps, il y a le côté assez brut de la nature autour, la montagne, tout ça. Donc c'est assez rugueux en même temps. Il y a un mélange de rugosité, j'allais dire, et de... il y a aussi pas mal d'églises aussi dans la ville. Donc il y a un côté assez posé, quoi, assez intérieur dans cette ville. Et en même temps, il y a un côté assez rugueux de la nature autour. Donc ça fait un mélange assez intéressant, je trouve.
Le chœur final du Davide Penitente de Mozart, c'était à Salzbourg en 2004 sous la direction d'Ivor Bolton. C'est l'air des lieux qui se poursuit sur France Musique avec Marc Minkowski, le chef français, directeur musical des musiciens du Louvre, qui dirigeait donc ce spectacle mis en scène par Bartabas, spectacle que vous pourrez voir d'ailleurs sur Arte au mois de juin prochain. Nous le rejoignons, Marc Minkowski, à la sortie du Manège des Rochers.
Donc là, voilà, on vient de sortir de la Felsenreitschule et on tombe dans un lieu encore assez incroyable. Ça s'appelle la Karlböhm-Saal et ça n'est que le foyer de la Felsenreitschule et de la Haus für Mozart. Mais quel foyer ?
Oui, voilà, c'est ça.
Il s'agit du manège d'hiver, en fait, des archevêques. Je pense qu'il en manque un bout, mais en tout cas, voilà, c'est évident, c'était un espace de travail pour les chevaux. Je pense qu'il y avait aussi des spectateurs qui étaient là. Dans ces balcons, ceci, là-haut, voilà, c'est un petit manège d'hiver avec des peintures un petit peu bizarres, avec des cavaliers, des scènes un peu épouvantables.
Ah oui, des scènes très épouvantables.
Oui, oui,
des têtes coupées.
Oui, oui. Je sais plus exactement l'histoire de ce truc là-haut, mais enfin bon, on est encore une fois dans un lieu équestre assez aiguisé. Alors, ce qui est assez drôle dans cette Karlböhm-Saal, en été, vous avez un gratin, mais hallucinant, qui se retrouve aux entractes, toutes les robes les plus incroyables du monde teuton.
Les plus improbables, on va dire. Même.
Non, en général, c'est très, très classique. C'est des costumes traditionnels autrichiens, à 1000 euros le gramme de tissu, enfin bon, de la soie très travaillée, ou des gens qui viennent de Salzbourg, etc. Alors là, ici, vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on arrive dans un lieu tout d'un coup très moderne. On est là dans l'antichambre de la Haus für Mozart. La Haus für Mozart, c'est assez spécial. C'est un lieu qui a été refait partiellement et magnifiquement. La scène, en fait, est la même scène du théâtre qu'il y avait ici avant, qui s'appelle le Kleines Festspielhaus. Mais ce Kleines Festspielhaus, on y a joué des années durant des opéras de Mozart, etc. Architecturalement, c'est une salle un peu datée, qui était un peu comme un couloir. Le public était loin de la scène. On n'y voyait pas grand-chose. Ça sonnait pas très bien. Bon, ils ont tout refait. Et ils ont fait un lieu absolument magnifique, un théâtre à l'italienne moderne. Donc voilà, ça c'est le vestibule. Et vous voyez tous ces escaliers qui permettent de monter au balcon. Et on va rentrer dans la salle. Là, on se retrouve dans un théâtre à l'italienne, moderne, extrêmement fonctionnel, avec deux balcons. Il n'y a aucune mauvaise place. Personne n'est au fond d'une loge. Le parterre où nous nous trouvons est en pente, ce qui fait que tout le monde a une vue plongeante sur la scène. La scène est voilà, de petite dimension, enfin de moyenne dimension, on va dire. C'est un peu comme un opéra comique moderne et grand, ou un théâtre du Châtelet un peu plus petit. Et les plus de cette salle, bon bah, c'est que c'est intime et en même temps ça respire. L'équipement scénique est très performant et puis la fosse d'orchestre est petite mais peut quand même contenir 70 musiciens. On y tient très bien à 40, après on se sert un petit peu plus mais on peut aller jusqu'à 70. Et elle a une acoustique mais fabuleuse. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il y a un vide en dessous et qu'elle est posée sur des vérins, etc. Il y a une résonance magnifique. C'est la plus belle fosse du monde que je connaisse pour un orchestre d'instruments anciens. Ah oui. Déjà, quand on commence à faire un son, il y a une espèce de réverbération dans la fosse qui est très rare, qui nous encourage à jouer, à faire des nuances. Et puis dans le public, ça ne couvre pas le plateau, c'est toujours aéré. Non, c'est vraiment un bijou. Donc dans cette salle, on a fait notre Lucio Silla pour ma première Mozart Forer en 2013 et Orfeo l'année dernière. C'est des très beaux souvenirs.
Tout à l'heure, je vous entendais dire le gadget de Karajan à propos de la grande salle, le Grosse Festspielhaus. Mais il y avait quoi derrière ce terme-là, Marc Minkowski ? Une histoire aussi.
Je dis gadget de Karajan parce que voilà, je crois qu'il a voulu marquer de son empreinte ce festival par un lieu. Et effectivement, est-ce qu'il y avait besoin de construire encore un théâtre, vu qu'on avait déjà la fête de Nratschul avec sa très grande scène et ex-Kleines Spielhaus maintenant sur Mozart, est-ce que c'était nécessaire? Bah, finalement, l'histoire, je crois, dit oui, parce que c'est toujours plein en été, c'est un lieu pharaonique et pourtant d'une certaine intimité, parce que c'est très bien construit, c'est très bien pensé, il n'y a que des bonnes places, c'est un grand amphithéâtre, c'est une scène gigantesque et effectivement, on peut y faire des spectacles non moins pharaonique, des grands metteurs en scène, Peter Stein, Herbert Wernicke, enfin et bien d'autres, et Karajan lui-même aussi comme metteur en scène, ils ont fait des choses absolument incroyables. Alors c'est vrai que c'est un peu disproportionné dans une petite ville comme ça, et puis d'avoir ces trois théâtres à la suite, penser qu'on a encore la cour de la résidence derrière, que de l'autre côté de la Salzach, on a encore les deux petites salles de concert et le Landestheater, le petit théâtre à l'italienne de 700 places qui fait le répertoire annuel, c'est je crois que c'est unique au monde.
La grande histoire des chefs mozartiens à Salzbourg, Marc Minkowski, pour vous, elle est, bon, on cite Karajan, mais elle est liée à quelle grande figure, mais celle que vous aimez, ceux qui ont fait l'histoire de ce festival dans Mozart?
Il y en a un qu'on ne cite plus beaucoup, qui a eu quand même beaucoup d'importance, c'est Bernard Paumgartner. Il était, je crois, chef du Mozarteum Orchester. Il a fait des choses merveilleuses ici, des spectacles repris. Les opéras de jeunesse, c'est lui qui a eu aussi le culot, le courage de s'attaquer à ces difficiles ouvrages, Finta Giardiniera et autres. Mais vous savez, si on écoute par exemple des lives du jeune Karajan ou du moyennement jeune Karajan, on entend des choses incroyables, d'une vivacité, d'une énergie fabuleuse. Il y a aussi une magnifique flûte de Toscanini en live où l'assistant qui joue le Glockenspiel est un certain Georg Scholti. pourtant, il y a une Reine de la Nuit qui se paume, qui se plante complètement. Je pense que Toscanini a dû devenir plus rouge que rouge à ce moment-là. Il y a des Furtwängler aussi, des Don Giovanni magnifiques. Et puis Böhm et Walter, magnifiques aussi. Böhm dans une certaine magnificence. Mais tout ça, ça c'est une interprétation mythique. Voilà, et puis il y a quand même aussi un grand révolutionnaire dans tout ça qui nous a tous beaucoup marqué, c'est Nicolas Arnoncourt. Puis j'en oublie d'autres, mais Claudio Abbado, enfin Muti dans une tradition extrêmement élégante et profonde, magnifique interprète mozartien, magnifique. Thank you. On sort de cette Felsen Reitschule et on est dans une cour, donc la Toscanini Hof. On est toujours en train de longer la roche. Là, vous avez un truc assez fascinant, c'est la façade arrière de la House for Mozart, anciennement Kleines Festspielhaus, avec un orgue. Je pense que c'est un orgue pacotille, quoi, pour décorer des figures, des masques grecs qui ont bien une esthétique début XXe siècle. Et puis alors, on avance un peu et on va arriver dans la cour de l'église Saint-Pierre, ce qui est un endroit assez émouvant.
Alors c'est vrai que l'ambiance à Salzbourg l'hiver au mois de janvier, Marc Minkowski, elle est un peu différente de celle... Oui. De l'été, hein.
Il y a une lumière magnifique. Je suis très sensible à ça. Et vous voyez, le clocher de l'église Saint-Pierre qui s'approche de nous, là, il est illuminé avec un soleil qui scintille, littéralement. Là aussi, il y a un clocher à côté. Et puis la neige qu'on voit sur les montagnes alentours, c'est un côté féerique, je trouve. Enfin, pour moi, plus Salzbourg que l'été, qui devait être une ville, je pense, complètement désertée. Je pense que les gens devaient aller un peu ailleurs. Enfin bon. Et l'été, c'est quelquefois très très chaud, parce qu'on est dans une cuvette, c'est plein de touristes. Voilà. Donc là, on arrive dans cette cour de l'église Saint-Pierre. Alors, c'est magnifique parce qu'il y a un château, le château derrière, qui est un très bel élément de décor. Je crois qu'à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Je crois que c'est un château dans lequel les archevêques devaient résider, d'ailleurs. Derrière ce château, il y a aussi le château de Leopoldskron, dans lequel Max Reinhardt résidait, dans lequel il y avait un petit théâtre de plein air, dans lequel il faisait aussi des spectacles. Et puis voilà, cette église Saint-Pierre, dans lequel Mozart aurait joué, on n'est pas à 100% sûr, la fameuse messe en ut, qui est le modèle donc de notre David de Penitente. Ce David de Penitente, c'est quasiment le tiers de cette messe réadaptée pour une société de concert viennoise, avec un texte italien, avec des psaumes extrêmement simples. Donc voilà, dans cette église Saint-Pierre, il y a chaque été, le festival fait depuis le début, une messe en ut, qui est toujours aussi organisée par la Stiftung Mozarteum, par nous. Voilà, nous de temps en temps, on la donne en janvier, l'année prochaine, c'est Johnny Le Gardiner qui la donnera. Votre serviteur l'a fait il y a 3-4 ans, avec un tout petit effectif, avec 10 chanteurs, parce que si on va dans la tribune d'orgue, là-haut, si c'est là que Mozart voulait la faire jouer ou la jouer, il n'y a pas la place de mettre un chœur à proprement dit. C'est comme toutes ces messes de Bach, toutes ces passions, où il devait y avoir une toute petite capella. Surtout que s'ils étaient en double chœur, ils étaient peut-être à peine plus de un par partie ou deux peut-être. Et voilà, c'est pour moi un lieu plein d'émotions. Il y a aussi un restaurant traditionnel qui est le Peterskeller, avec une magnifique terrasse court à l'ombre du rocher. Où voilà, beaucoup de gens se retrouvent en été ou en hiver après le festival. Il y a aussi un lieu mythique là devant le festival qui est le Triangle. Ça, c'est vraiment la cantine où tout le monde, toutes les catégories se retrouvent, artistes, publics, touristes. Et c'est pareil, c'est ouvert toute l'année. Et il y a toujours une espèce d'énergie du service et un amour des artistes pour nous servir rapidement. C'est très important quand on après une journée de labeur. On a l'impression d'arriver dans sa cuisine, c'est assez génial.
Thank you.
le son, l'interprétation également sonne sans doute d'époque, il n'empêche que c'est assez émouvant. Au mois d'avril 1958, Bernard Paumgartner dirigeait la messe en ut mineur de Mozart, la même donc où elle fut créée en l'église Saint-Pierre de Salzbourg en 1783. Nous reviendrons très bientôt à l'histoire de Mozart à Salzbourg, à Paumgartner aussi qui a été l'une des grandes figures musicales de cette ville, et entre autres fonctions d'ailleurs le directeur du Mozarteum. Ce sera dans un tout prochain numéro de L'Air des Lieux, et ce sera justement au Mozarteum. Rendez-vous donc pour ce deuxième numéro salzbourgeois le 1er mars sur France Musique. C'est Béatrice Trichet qui a enregistré et réalisé ce numéro de L'Air des Lieux. Un grand merci à elle, à Julien Douminc qui était avec nous aujourd'hui, à Marie-Christine Ferdinand qui prépare nos équipes musicales. Toutes les infos, la réécoute et le podcast, vous le savez, c'est sur francemusique.fr, et vous trouverez d'ailleurs sur la page de l'émission d'aujourd'hui une interview avec Matthias Schulz, c'est le directeur de la Fondation Mozarteum qui programme chaque hiver cette semaine Mozart à Salzbourg. Son édition 2015 se referme aujourd'hui même.